deux amoureux du jazz. Marie-France Guimaroche a le très grand plaisir de vous présenter Jazz Rétro. Xavier Girard et son ouvrage « Les années Fitzgerald » ou « La Côte d'Azur » dans sa décennie merveilleuse, celle des années 20, nous permet de nous passionner pour les mystères du château de D, la villa Noailles ou le rêve de l'ingénieur. De phare dans la nuit, les voyageurs sont déjà en route, le bon titre les a nommés. Il s'agit de Man Ray et de Jacques-André Boiffard. L'image suivante est un gros plan sur les dés, que s'apprête à jeter une main de mannequin, les mystères du château de D. C'est le titre du film. Il commence comme un jeu de hasard sur la Côte d'Azur. Man Ray, à qui le vicomte Charles de Noailles avait commandé un court-métrage, sorte d'album souvenir de la maison qu'il avait fait bâtir ailleurs en 1924, d'après les plans de Robert Mallet Stevens, et qu'il n'avait cessé d'agrandir depuis, en avait eu l'idée en regardant la photo de la villa aux formes cubiques que lui avait montré le vicomte. Comme biceps et bijoux qu'avait réalisé Jacques Manuel l'année précédente de la même façon dans les décors naturels de la villa. Le vicomte et ses amis jouant aux acteurs de cinéma, le film serait à la fois un scrapbook et un jeu de cache-cache avec les invités entre name-dropping et mots en carré. Il se servirait du poème de Mallarmé, Igitur, comme d'un vague synopsis. Ce serait un ouvrage facile, au soleil, dans un bel endroit, chez le mécène des artistes de l'avant-garde, connu pour être un hôte discret et attentionné qui payait comptant. 2 semaines à peine, presque des vacances. Le vicomte, qui veillait à tout, avait dispensé Man Ray de dinner jacket. Le genre de la maison, lui avait-il dit, n'est pas habillé. Des conditions idéales.
Voici des couplets qui sont dédiés à tous les intellectuels, les vrais et les faux. Il y a beaucoup de faux en ce moment. Ce sont des intellectuels qui vivent entre terre et ciel. Ils ont le don providentiel de la pensée. Ils voyagent dans de vieux bouquins qui datent du temps de Charles Quint, ornés des couleurs d'Arlequin, chose insensée. Ils connaissent l'univers de son endroit, de son envers, changeant en un grand palimpseste la voûte céleste. Ils collectionnent les papyrus qu'ils lisent parfois dans l'autobus quand ils vont au marché aux puces. Acheter de l'or brun russe. Ce sont des intellectuels qui se retrouvent dans des chapelles. Que se disent-ils, que se disent-elles? Des choses profondes. En discutant, ils se méfient de toutes les grandes philosophies. Aucune vraiment ne leur suffit. Âme vagabonde. Arrive la confusion des langues, l'évocation du Big Big Bang. Alors tout tourne dans cet angle, en fin du monde. Le soir au fond de leur maison, sans trop savoir en quelle saison, tout en buvant une tisane, ils pensent qu'ils sont des ânes. Ce sont des intellectuels, il y en a partout en Rivempelle. Des vrais et des faux en parallèle, quel beau mélange. Mais dès que l'on monte dans leur barque, ce sont les faux que l'on remarque, déguisés parfois en énarques, pour donner le change. Et moi souvent je les confonds, mais que m'importe c'est profond, trop d'intellect ça me morfond. Alors des ailes me soulèvent dans une chanson, qui rêve à sa petite façon et plane pour vous loin des leçons des intellectuels, des intellectuels, des intellectuels.
voilà donc parti. Une colline hérissée de ruines apparaît. À mi-hauteur, au-dessus des tuiles du vieux hier, vous distinguez des constructions étagées, un assemblage de surfaces géométriques et de toits terrasses plantées d'orangers et de cyprès qui évoquent davantage une succession de corps de bâtiments emboîtés l'un dans l'autre qu'une luxueuse résidence dans le midi. Vous reconnaissez la Villa Noailles, comme on l'appelle aujourd'hui, mais Charles et Marie-Laure de Noailles et leurs amis ne parlaient que de Saint-Bernard, du nom de l'ancienne abbaye cistercienne, dont un bâtiment, un clos flanqué d'une tour qu'ils aménageront pour leur ribambelle de domestiques et quelques salles voûtées qu'ils transformeront en séjour, occupaient encore une parcelle du terrain. En 1923, la mère du vicomte, Madeleine Dubois de Courval, épouse du duc de Mouchy et prince de Poix, dont Charles était le deuxième fils, l'avait offerte en cadeau de mariage à son fils quand il avait épousé Marie-Laure Bischofstein. Maneret vous avait prévenu en annonçant comment deux voyageurs arrivèrent à Saint-Bernard et ce qu'ils virent dans les ruines d'un vieux château au-dessus desquels s'élève un autre château de notre époque. Le ton de l'annonce parodie les romans d'Horace Walpole, comme le titre du film, le célèbre livre de Gaston Leroux, Le mystère de la chambre jaune, que Marcel L'Herbier avait fait revivre au cinéma. La bâtisse que vous avez aperçue brièvement, au pied de la haute silhouette médiévale, surgit alors dans toute son ampleur. Ses volumes imbriqués et sa blancheur lumineuse contrastent vivement avec les échancrures ombreuses de la forteresse. Comme si un décorateur d'opéra avait choisi de figurer en toile de fond l'opposition dramatique de l'ancien et du moderne. Et puis vous voilà brusquement transporté, loin de là, à Paris. Les deux voyageurs que vous avez cru arrivés à destination sont dans un bistrot de la capitale et se demandent s'ils partent ou non et vers où. Ils partent bien et le but du voyage, jouer au dé, est connu. Vous savez aussi qui ils sont, mais leurs visages sont masqués par des bas de soie, comme ceux de malfaiteurs, pour créer, dira Maneret, une atmosphère de mystère et d'anonymat. À moins qu'il ne porte, comme dans L'Inhumaine de Marcel L'Herbier, le film auquel Mallet Stevens venait de collaborer, le masque judicieux qui rend les domestiques sourds et toujours souriants. Mais ici, pour les besoins du film, point de domestique ou presque. Ce sont les maîtres et leurs invités qui avancent masqués. Quels méfaits vont-ils connaître? Quels mystères modernes vont-ils jouer là devant la caméra? Une magnifique Hispano-Suiza, fermée, attend nos pieds nickelés et le conducteur en un dernier réglage en fait pivoter le pare-brise. Vous les suivez, à toute vitesse, par monts et par vaux, à travers la France. Nous sommes en janvier 1929, la campagne est enneigée. Les platanes ont été élagués et des stères de bois s'accumulent au bord de la route. Cet hiver-là, en février, le gel fera des ravages dans les jardins du Midi. Pourtant, le voyage se passe sans encombre sur un rythme de samba que Maneret ajoutera en 1940 au long d'une nationale 7 déserte.
Thank you.
les deux complices ont lu « L'envoûté » de Somerset Maugham. Ils mettent en boîte leur pari hier sur les chapeaux de roue, caméra à l'épaule, sans s'arrêter. Bientôt, ils franchissent le pont de la Durance, filment un train au passage et un camion qu'ils cadrent à cause des ombres des platanes pour le jeu cubo-futuriste des lignes brisées et jetées à la surface. Après avoir traversé la vieille cité endormie, le panneau Noailles-Saint-Bernard, propriété et chemin privé, leur indique les derniers lacets, alors non goudronnés, qui mènent au château. La caméra pique un instant vers les oliviers en contrebas. Que serait une histoire de château sans précipice ? Et se redresse in extremis vers l'enceinte fortifiée, épile devant une sculpture cubiste qui tourne sur elle-même. Vous en connaissez le nom. J'aime le mouvement qui déplace les formes ou la joie de vivre. Et l'auteur, Jacques Lipsitz. Les voyageurs sont arrivés, du moins le suppose-t-on, car quelques instants plus tard, deux autres figurants, le comte Antoine de Beaumont et Lili Pastré, au visage pareillement estompé, arrivent à pied et par une autre entrée. Chaque fois que vous retrouvez Saint-Bernard par cette même route à peu près inchangée, le mauvais Mauvi de Maneret vous revient en mémoire, ou plutôt, il vous semble que vous jouez vous-même dans un film de vacances qui vous projette, après une course rapide, tout droit dans le décor. C'est qu'il est peu d'endroits de la Côte d'Azur, à l'exception de la merveilleuse villa aujourd'hui. Dans son virage du Cap d'Antibes ou de latitude 43 à Saint-Tropez, aussi scénographique que celui-là. Pour l'heure, privée des activités qui étaient sa raison d'être, la villa vous fait l'effet désagréable d'un affaire échoué et désarmé ou d'un studio de cinéma brutalement abandonné par ses acteurs renvoyés au néant. D'une certaine façon, en la montrant successivement dépeuplée et remplie de gymnastes, Maneret a livré une curieuse anticipation de la ruine moderne qu'elle deviendra à son tour. Son mystère, à l'image des villes de Chiricot, est celui d'une moderne Pompéi traversée de fantômes, enfants, courant après une balle. Les images à la sauvette du voyage automobile, comme la sculpture sur son plateau pivotant, semblable à une roue qui continuerait à tourner après que la voiture eût versé dans le paysage, vous mettent sur la piste. Dans l'Inhumaine, Marcel L'Herbier faisait précéder de la même façon l'arrivée tardive de l'ingénieur dans sa villa de la Cantatrice, que Mallet Stevens avait dessinée et perchée sur une hauteur imaginaire par une course en Bugatti sur une route enlacée, grimpant comme ici à flanc de colline. Non loin de l'entrée, il avait lui aussi juché une statue vivante. Les invités étaient déjà à table. Ici, Charles et Marie-Laure, le comte de Beaumont, Alice de Montgomery, Evelyne Orlovska, Bernard Deshoulières, le comte d'Ursel et sa femme, Lili Pastré et Marcel Raval font leur gymnastique en maillot rayé, tous identiques autour de la piscine. La Vénus cubiste de Lipschitz a disparu, mais la maison des chauffeurs, au nombre de 4, prêts à sortir la Rolls sous la Bentley à la demande des invités, et le garage destiné à recevoir les 5 voitures de maître sont toujours là. Il y a quelques années, le château était ouvert à tous les vents et vous y entriez incognito. Le cartouche affiché, trop tard, comme pour nos voyageurs et l'ingénieur de l'Inhumaine. Les jeunes du village en avaient fait leur terrain d'aventure. L'endroit, entièrement dépecé, était devenu un bivouac encombré d'ordures. Sur le mur de la piscine, l'une des 14 pendules murales de Francis Jourdain, réalisée par la maison Paul Blot-Garnier, rare rescapée toujours en place du mobilier primitif, marquée 3h20.
Anyone finer in the state of Carolina? If there is and you know her, I would like to have you show her to me, Dinah. Got those Dixie eyes blazing, how I love to sit and gaze in to the eyes of Dinah Lee. every night. Why do I shake with pride? Because my dynamite changed your mind about me. Oh, Dinah, should you wander to China, I would hop an ocean liner just to be with Dinah Lee.
Dinah is there anyone finer in the state of Carolina? If there is, then you know it, sure to me. Dinah, where the Dixie eyes are blazing, I will not sit gazing till the eyes done leave. My Dinah, every night, why should I shake with fright? Because my dynamite changed her mind about me. Dinah, if you want to do China, I will have an ocean liner just to be with Dinah. Boat a little later, 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 little
The name of this song is Dinah.
Said it.
The name of this song is Dinah.
Tell it.
The name of this song is Dinah.
Snag it.
The name of this song is Dinah.
Oh, Dinah, anyone finer in the state of Carolina? Oh, if there is any, you know where I would like to have you show her to me, Dinah. Got those Dixie eyes blazing. How I love to sit and gaze into the eyes of Dinah Lee.
Dinah's song is Dinah.
Wanna do China?
Dinah's song is Dinah.
Would get me an ocean liner just to be with Dinah Lee.
Le temps s'était arrêté. Et c'était bien ce qui pouvait arriver de pire à une maison conçue pour fonctionner à plein régime, comme une salle des machines, à partir d'une série de petites fonctions clairement définies, dont elle n'était, selon le vœu de Charles de Noailles, que la mise en espace. « J'ai envie de bâtir », avait écrit le vicomte à son architecte le 5 juillet 1923, « une maison extrêmement moderne. Mais par moderne, j'entends employer tous les moyens modernes pour arriver au maximum de rendement et de commodité. » Les exigences du programme n'étaient d'ailleurs pas si nombreuses. 1. La construction devait s'adapter au terrain en terrasse. 2. Elle ferait grand cas de la vue qui embrassait au sud la vieille ville de Hyères, la presqu'île de Gien, les îles d'Or, Porquerolles, Porquerolles et l'île du Levant. À l'est, le massif des Maures et à l'ouest, les collines du côté de Toulon. 3. Elle serait conçue tout entière en fonction du soleil. Je veux arriver à ce que notre dispositif donne le soleil du matin dans les chambres à coucher et du soleil de l'après-midi dans le salon, insistait-il auprès de l'architecte. La maison devait enfin accorder la plus grande importance aux activités de plein air. Chaque invité devait pouvoir jouir de l'extérieur de jour comme de nuit. À ces conditions et à ces conditions seulement, ce serait une maison intéressante à habiter. Elle serait la première du midi à opter clairement pour une conception fonctionnaliste, claire et efficace, en accord avec un mode de vie moderne, c'est-à-dire sportif, amoureux du grand air et du soleil, garantissant la dépendance de chacun. Elle devait en outre réunir les dernières innovations techniques réalisables en France. Horloge électrique, baie coulissant dans le sol, réserve à tableau sur châssis mobile, chasse d'eau silencieuse, lavabo escamotable et toutes sortes de gadgets modernes, amusants au possible. Quand Mallet Stevens s'éloignera du concept initial pour se placer sur le terrain seulement architectural, Charles de Noailles lui fera observer courtoisement « Ne cherchez pas à me séduire avec des formes ». Lorsque l'architecte insistera pour maintenir le belvédère avec son toit en porte-à-faux et sa visière de casquette au poste de commandement du paysage afin de terminer ce montant vertical blanc par un effet sombre, le vicomte donnera ordre de réduire la hauteur de cette tour décorative dont il ne voyait pas l'utilité et qui faisait trop penser à de l'architecture de salon. une fois pour toutes la vertu de la petite maison, quand bien même était-elle devenue grande, de 800 mètres carrés en 1924, elle avait atteint 2400 mètres carrés en 1933, était incompatible avec l'emphase et l'ostentation. La petite maison qui comptait en 1926 huit chambres d'hôtes avec salle de bain, un salon et une pièce de séjour, auxquelles s'ajoutaient les salles voûtées de l'ancienne abbaye transformées en salon de jeu et de réception, ne devait pas rester longtemps en l'état. En 1928, le vicomte y ajouterait dans la partie haute une petite villa qui doublerait le nombre des chambres, 15 au total, et s'augmenterait d'une salle de culture physique, d'une piscine et d'un sauna, puis en 1933, d'un squash. Pour finir, la pluie allait commencer à grignoter la petite villa et les équipements sportifs se rouillaient à jamais. Le navire moderniste auquel Charles avait consacré tous ses soins prenait l'eau et commençait à tanguer dangereusement. Il se transformerait peu à peu sous les longues mains de fées farfelues de Marie-Laure en cahotante roulotte surréaliste. La New Sobriety, dont Charles avait rêvé, que Le Corbusier avait entre-temps expérimenté au Pradé dans la villa d'Hélène Mandreau, et Hélène Gray, à Roquebrune-Cap-Martin, était morte. Marie-Laure lui avait substitué une chambre de petite fille riche qui n'en faisait enfin qu'à sa tête, recréant autour d'elle le jardin excentrique peuplé d'animaux en plâtre, de la villa croissée où elle avait passé son enfance. En quelques années, une féerie de briques et de brocs prit possession de la folie moderne du vicomte. mais à cette date, le mystère du château de D s'était depuis longtemps envolé avec ses voyageurs.
I've grown accustomed to her face. She almost makes the day begin. I've grown accustomed to the tune. She whistles night and noon. Her smiles, her frowns, her ups, her downs are second nature to me now. Like breathing out and breathing in, I was serenely independent and content before we met. Surely I could always be that way again, and yet I've grown accustomed to her looks, accustomed to her voice, accustomed to her face. I'm very grateful she's a woman and so easy to forget. Rather like a habit one can always break, and yet I've grown accustomed to the trace of something in the air. Accustomed to